Les archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Il est paradoxal que des États africains, devenus maintenant indépendants, acceptent la division dans leurs rangs, alors qu'auparavant, ils se sont toujours plaints de la tactique bien connue de diviser pour régner, des impérialistes, tactique par laquelle ces derniers ont pu les maintenir pendant plusieurs années sous leur domination.
Il ne sera resté que très peu de temps à la tête du Togo. Et pourtant, plus d'une quarantaine d'années après sa disparition, son ombre plane encore sur le paysage politique de son pays. Il faut dire qu'il fait partie du tout petit nombre d'Africains qui, juste après la Seconde Guerre mondiale, se sont tout de suite engagés dans la lutte pour obtenir des droits politiques accrus et une représentation plus importante pour les indigènes au sein des instances qui les gouvernaient. Sylvanus Olympio est certainement le premier à mener ouvertement une campagne pour l'indépendance du Togo. Et même s'il n'a pas bénéficié de la même publicité que les Kwame Nkrumah et autres panafricanistes de la période des années 50, il est l'un des premiers à militer pour la constitution des grands ensembles sous-régionaux.
Chers collègues, l'investiture est accordée à l'unanimité. La Chambre des députés du Togo accorde à l'unanimité l'investiture de M. Sylvanus Olympio. La parole est à M. Olympio, Premier ministre.
Monsieur le Président, messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion les paroles qui ont été prononcées par monsieur le député. Monsieur, je ne sais pas si je mérite toutes ces paroles que vous avez prononcées, mais il y a une chose que je m'efforcerai de faire, et ce sera de mériter la confiance que vous venez de me témoigner en instant. Monsieur, je continuerai à travailler dans le sens des programmes que je viens de vous soumettre et j'espère que j'aurai toujours votre confiance et votre appui. Merci, monsieur.
Ce 16 mai 1958, le Togo vit un tournant décisif dans son histoire. Toute la population qui n'a pu se déplacer sur les lieux des festivités a les oreilles collées aux récepteurs radio. Au programme de cette journée historique, l'alternance politique. Événement sans précédent pour ce territoire. Pour la première fois, grâce au suffrage universel, le Togo va avoir un nouveau Premier ministre. Un nationaliste convaincu dont le programme est justement d'unifier le pays. Ce qui tranche avec ceux qui ont jusque-là administré cette ancienne colonie allemande, désormais sous la tutelle de la France. Sylvanus Epifanio Kwame Olympio naît à Kwando, dans l'ancien Togo britannique, actuel Ghana, en 1902. Et comme on le lit dans les livres du Togo méridional de cette époque, il avait un ancêtre portugais. Gilles Christ Olympio, son fils, raconte.
Mon arrière-grand-père, qui était métis, portugais et noir, venu du Brésil, et depuis il a eu des enfants le long de la côte. Mon grand-père est son fils avec une mère Yoruba, ça veut dire d'origine nigériane.
L'historien a touché à Bobli.
Ses parents, surtout son père, qui était un acheteur et un vendeur de produits tropicaux, l'a eu, non de sa première femme, mais en fait de la dame de compagnie de sa première femme. Parce que la première femme du vieux, du père, ne faisait pas d'enfant. Et comme ça se fait beaucoup ailleurs, le père a trouvé d'une beauté légendaire la dame de compagnie de sa première femme. On dit souvent que le président Olympio était le fils aîné de son père. Non, il était le premier garçon de son père. Sa grande sœur s'appelait Alexine.
Le jeune Silvanus Olympio commence ses études sous le régime colonial allemand. Puis de 1914 à 1920, il fait des études en anglais, Lomé étant passé sous occupation britannique après la Première Guerre mondiale. Après son certificat d'études primaires, il part pour Londres en 1921, où il va poursuivre ses études supérieures. Il entre à la prestigieuse London School of Economics de l'Université de Londres, d'où il sort avec le diplôme de Bachelor of Commerce. Gilles-Christ Olympio, son fils, revient sur le parcours académique londonien de son père.
Premier noir diplômé de cette école en 1924.
Silvanus Olympio va également étudier le droit international à l'Université de Dijon en France et à l'Académie de droit international à Vienne en Autriche. À la fin de ses études, il est engagé par la puissante United African Company Unilever, qui a de gros intérêts en Afrique occidentale. Il travaille donc pour cette grande firme dans sa ville de Lomé, devenue la capitale de cette partie du Togo placée sous administration française par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Olympio, qui parle déjà couramment l'anglais, l'allemand et l'ewe, va se mettre à l'apprentissage du français. Simple employé au Nigeria, puis à la Côte de l'Or, Gold Coast, il gravit rapidement les échelons de la hiérarchie. En 1938, il est adjoint à l'agent général d'Unilever pour le Togo, à l'United African Company, l'UAC. Fait plutôt exceptionnel à une époque où il n'existe en réalité aucune pression tendant à l'africanisation des cadres. Silvanus Olympio devient ainsi le premier Africain à accéder au poste le plus élevé dans une compagnie privée, et cela grâce au mérite.
Le 26 août, le territoire du Tchad s'est rallié aux forces françaises libres sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire. Le 27 août, le Cameroun, dans un immense mouvement de foi, d'ordre et de discipline, s'est spontanément placé sous la direction de mes représentants. Ceux-ci assument directement l'administration du mandat français et le commandement des troupes. Hier, 29 août, à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, mon représentant, acclamé par toute la population et obéi par toutes les troupes, a pris en main les pouvoirs civils et militaires. Ainsi, menacé par les convoitises de l'ennemi allemand et italien, placé par l'abominable armistice dans une situation économique sans issue, tout l'ensemble des colonies de notre Afrique équatoriale est rentrée dans la guerre.
1940, c'est le début de la guerre. Très rapidement, l'Afrique est sollicitée. La France veut utiliser l'extraordinaire réserve des fantassins que constitue l'Empire. Et le général de Gaulle lève son armée qui part de Brazzaville.
Feu ! Ma longue fidèle, ma tranquille 780 dans l'armée. Je suis ancien combattant. Engagé volontaire dans l'armée française, nous avons fait la guerre. Chez nous, les héros de Birakem, héros de Birakem. J'ai dit bien que le 27, on nous a attaqué avec les chars et notre batterie a démoli 45 chars. On nous a envoyé maintenant la France libre. Allez-vous occuper là, le point d'eau qu'on appelle Birakem. Moi, je croyais que Birakem, c'est un village. C'est là où j'ai traité mon capitaine, mais mon capitaine, vous êtes tous. Les blancs sont des sauvages. Il n'y a rien. Même pas un herbe comme ça. À cette longueur, il n'y en a pas.
Au cours de cette Seconde Guerre mondiale, Silvanus Olympio refuse de s'aligner dans le camp de Vichy du maréchal Pétain. Gilles-Christ Olympio, son fils.
Il était à peu près une demi-douzaine qui ont refusé parce qu'ils étaient beaucoup plus proches de la Gold Coast devenue le Ghana. Et ils aidaient d'ailleurs des Européens au Togo à partir en Gold Coast pour atteindre Charles de Gaulle à Brazzaville. Et il a été arrêté en 1942. Nous avons fait la fuite avec ma mère, mes frères et sœurs, pour me réfugier en Gold Coast sous Togo, sous le régime britannique.
En 1942, donc, Gilles-Christ Olympio est arrêté par le régime de Vichy et interné dans un camp à Djougou, dans le nord du Dahomey, à cause de ses sympathies gaullistes et de ses attaches avec une firme anglaise. Relâché quelque temps après, il va rapidement devenir la personnalité dominante au sein du Comité d'Union Togolaise, le CUT, qu'ils ont formé en mars 1941 à l'instigation du gouverneur Montagnier pour unir dans une commune fidélité la France des notables du Nord et du Sud.
Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur et de notre indépendance, et qui restera l'exemple du plus méritoire effort français.
Dès la fin de la guerre, au lendemain de cette conférence de Brazzaville en 1944, Sylvanus Olympio s'oppose farouchement à toute forme d'assimilation et au projet de suppression des langues africaines dans les écoles. Les affaires françaises débattues au Parlement ne nous intéressent pas. Nous demandons la présence à Paris d'un délégué permanent pour traiter uniquement des questions ayant un rapport avec l'indigène togolais et non les questions européennes. Nous voulons rester togolais et nous ne voulons pas avoir le statut européen. Nous avons une histoire, il y a donc intérêt pour nos enfants à apprendre leur langue. Je demande même que les administrateurs apprennent les langues indigènes. Fin de citation. Après la guerre, lorsque les partis politiques non soutenus par la France sont interdits, Sylvanus Olympio convertit le Comité d'Union Togolaise en parti politique. Il n'en change ni le nom, ni les objectifs. En 1946, le CUT va enlever la quasi-totalité des sièges de la première assemblée représentative. Il devient par le fait même le président de cette institution. Le Comité d'Union Togolaise demande très ouvertement, dès 1947, l'autodétermination. Sylvanus Olympio ressent profondément la division du Togo après la Première Guerre mondiale, lorsque les colonies allemandes sont partagées entre la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, et qu'une partie de l'ancien protectorat est placée sous tutelle anglaise et intégrée à l'administration de la Gold Coast, alors que l'autre est placée sous tutelle de la France. La tribu Ewe, divisée par les deux frontières établies lors de la conférence de Berlin en 1885, est encore dispersée lors de la nouvelle délimitation territoriale de 1920. Avec le Comité d'Union Togolaise, Olympio veut faire campagne pour un Togo réunifié et indépendant. Parmi les objectifs de cette campagne, la réunification des Ewe est toujours la priorité. Gilles-Christ Olympio, certains devant cet engagement pour les Ewe se sont souvent demandé si lui-même n'était pas de cette ethnie, si votre père n'avait pas une ascendance des ancêtres Ewe.
Si Wadous n'était pas Ewe, sa mère est de l'extrême nord du Togo, elle est ce qu'on appelle Mouba. Et son père, comme vous l'avez dit vous-même, était un métis du Brésil. Mais il faut dire que ce qu'il a toujours voulu, ce sont des choses pratiques. Comment est-ce que les Européens peuvent venir et couper une ethnie qui a l'habitude de faire le commerce entre circuler de gauche et à droite et tout d'un coup il y a trois ou quatre frontières à traverser, trois ou quatre régimes. C'est pour cela qu'il s'est lutté, il s'est embarqué dans cette histoire de l'unification des Ewe. Ça n'a pas réussi. Parce qu'ils ont voulu aller par le biais des Nations Unies, le Conseil des tutelles. Or, il y avait encore des Ewe qui n'étaient pas sous le tutelle. Par exemple, en Gold Coast, c'était des vraies colonies britanniques. Donc, ils ont abandonné cette idée pour s'orienter vers l'unification des deux Togo, le Togoland allemand, qui l'a chaperonné jusqu'à l'indépendance.
En tout cas, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1947 au palais de Chaillot, Sylvanus Olympio va être le premier Africain à présenter ses doléances devant une organisation internationale. Son appel au Conseil de tutelle cette année-là va marquer le début d'une période historique du nationalisme africain. En 1951, Sylvanus Olympio, nommé directeur de l'United African Company, va démissionner pour représenter le Togo devant le conseil de tutelle. Et par deux fois, il va ordonner le boycott des élections, en 1955 et lors du référendum de 1956. En fait, en 1954, il est condamné à 5 millions de francs CFA d'amende pour non-déclaration de revenus à l'étranger. Il perd alors ses droits civiques pour 5 ans. Inéligible, Sylvanus Olympio ne peut donc faire acte de candidature pour les élections suivantes, ce qui a pour avantage d'amener au pouvoir son rival et beau-frère Nicolas Grunitzky. Le Front nationaliste se tourne alors vers Maître Anani Santos de la Juvento pour conduire la bataille électorale. En réalité, l'inéligibilité d'Olympio relevait tout simplement d'une condamnation à caractère politique. Le but était de freiner ses velléités d'indépendance qu'il brandissait à toute occasion. Une fois de plus, Olympio sollicite les Nations Unies devant qui il présente son dossier. L'ONU demande alors à la France d'organiser de nouvelles élections en 1958 et d'accueillir une équipe d'observateurs des Nations Unies. Ces élections vont se solder par un raz-de-marée du comité d'union togolaise, le parti de Sylvanus Olympio. Son mouvement va obtenir 2/3 des voix. Le haut commissaire de la France, pénal, quelque peu contrarié, mais réaliste, se trouve donc dans l'obligation de demander au nouveau Parlement de voter comme toute première mesure une motion rendant à Sylvanus Olympio ses droits civiques dont il avait été déchu momentanément. Il le reçoit ensuite pour lui demander de former son gouvernement.
J'ai été reçu par le haut commissaire hier matin et au cours de l'entretien que j'ai eu avec lui, il m'a proposé de constituer un gouvernement, et ils m'ont demandé une réponse. Et je pense que la première page d'un nouveau gouvernement sera d'examiner les statuts du Togo. Vous savez que les statuts du Togo a été modifié il y a quelques mois, et l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution de décembre dernier, a demandé vivement que la nouvelle assemblée soit autorisée, examiner les statuts et faire des recommandations si nécessaire à la fois à la puissance administrante et à l'Assemblée générale. Et jusqu'à maintenant, notre parti a concentré ses efforts sur un seul problème. Et ce problème était et reste toujours d'obtenir l'indépendance de le territoire. Et une fois l'indépendance est obtenue, plusieurs problèmes, notamment des problèmes économiques, vont se poser. Mais, pour le moment, nous préférons faire face à ce grand problème qui est de négocier avec la France les termes de notre indépendance.
Le mot d'indépendance est bel et bien prononcé alors que le général de Gaulle prépare encore à Paris les statuts de la communauté qu'il va proposer aux territoires africains qui lui sont associés. Mais le Togo ne fait pas partie de ses colonies. Il faut dire que pour Sylvanus, l'indépendance était l'objectif immédiat. Gilles-Christ Olympio, comment s'expliquait cette volonté de souveraineté internationale qui animait votre père dans cette période où ce n'était pas encore la revendication principale ? Où on négociait plutôt une amélioration des statuts des peuples au sein des grandes colonies.
Il se liait d'amitié avec tous ces gens qui arrivaient du Ghana, du Nigeria, et les Nkrumah sont un peu plus jeunes, mais les Asafadje, etc., etc. Donc l'idée de l'indépendance était implantée dans sa tête dès le début.
Après cet entretien accordé à la presse, le jour même de sa rencontre avec le haut-commissaire Plenel, Sylvanus Olympio va être investi dans sa fonction de Premier ministre ce jour du 16 mai 1958 par la Chambre des députés. À Paris, le général de Gaulle, vexé par ses revendications d'autonomie, de souveraineté internationale, clairement exprimées par le Premier ministre Sylvanus Olympio, menace d'accorder immédiatement son indépendance à ce petit pays. Mais là encore, Olympio va recourir aux Nations Unies pour amener la France à rester 2 ans supplémentaires afin de préparer les cadres du jeune État. Il choisit comme jour de l'indépendance le 27 avril 1960, deuxième anniversaire de son élection. Ayant déclaré que le Togo obtiendrait son indépendance quand il le désirerait, la France ne pouvait tenir un autre langage. Sylvanus Olympio.
Nous sommes d'accord de ne pas faire des conventions avant l'indépendance, d'attendre l'indépendance d'abord, et puis de nous mettre d'accord sur la relation qui doit exister entre la France et la République ou bien le Togo indépendant.
Entre-temps, plusieurs dirigeants de pays anglophones d'Afrique avaient imité sa démarche. Et à Londres, grâce au président de l'Inde, la politique de décolonisation est acceptée sans trop de tiraillements. Un pays, la Gold Coast, devance même son voisin, le Togo, sur la route de l'indépendance et devient le Ghana. Mais le mouvement de revendication nationaliste est véritablement lancé. Les élections d'avril 1958 ont inauguré une révolution dans l'histoire de la France d'outre-mer. Ainsi, le plus petit territoire d'Afrique française, avec une des plus petites populations et une des économies les plus précaires, va mettre cette immense zone à l'heure des revendications nationalistes. Dans la zone francophone, le général de Gaulle mène campagne pour faire voter oui au référendum sur le statut de communauté qu'il propose. Un statut nouveau pour les territoires africains qui lui sont associés. C'est le début d'une grande tournée africaine qui commence par Madagascar.
Tous ici, vous aurez dans peu de semaines l'occasion d'exprimer votre volonté. C'est une volonté qui porte très loin en disant oui à ce qui est demandé. Vous vous engagerez avec la France et les autres territoires pour un grand avenir, je le répète. Et je suis sûr de votre réponse. Demain, vous serez un État, de nouveau, comme vous l'étiez quand ce palais était habité. Mais vous serez des hommes qui, en toute indépendance, se seront unis à d'autres hommes pour le meilleur et pour le pire.
Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, alors, qu'ils fassent ce que la France demande, la communauté franco-africaine. Nous ne sommes pas à l'époque des démagogues. Qu'ils s'en aillent, les démagogues, là où on les attend.
En septembre 1958, ce référendum qui se déroule à travers toute l'Afrique française va apporter l'indépendance à la Guinée.
Nous avons en fait un premier et indispensable besoin. Celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans le travail.
Sylvanus Olympio.
Qu'étant donné que le Togo n'a jamais fait partie de la communauté franco-africaine, il sera peut-être souhaitable d'attendre de voir la forme définitive que doit prendre la communauté africaine, franco-africaine avant de prendre une décision à ce sujet.
Une fois au pouvoir, comme Premier ministre, il s'assigne deux missions. La formation des cadres togolais et la réunification des Ewé.
C'est une question qui préoccupe beaucoup les Togo, la situation des Ewé. Étant donné que la plus grande partie de la population du sud du Togo sont des Ewé et ils ont tous leurs frères et sœurs à l'autre côté et nous avons toujours espéré de nous entendre avec les Ghana afin que la vie de ces tribus ne soit pas aussi pénible qu'avant. Et naturellement, comme nous l'avons dit dans la déclaration, il y a plusieurs solutions à ces problèmes. Mais certainement, nous n'acceptons pas la solution qui a été préconisée par Nkrumah, à savoir une intégration de la République du Togo dans les Ghana. Ça, nous n'acceptons pas. Mais d'autres solutions peuvent être envisagées. Et nous avons dit dans le domaine économique, une union douanière, des discussions ensemble pour traiter les grands problèmes économiques. Et je crois, voilà, ce sont des voies que nous devons chercher tous ensemble et avec la meilleure volonté.
Sur le terrain, Silvanus Olympio doit faire face à l'opposition de l'ancien Premier ministre Nicolas Gruevski, qui ne lui passe rien. Un an avant la date de l'indépendance, Silvanus Olympio, qui aime s'adresser à son peuple, dresse le bilan de sa première année de pouvoir.
Les services de l'africanisation des cadres, créés en janvier de cette année, a eu pour première tâche la création de l'école togolaise d'administration, ouverte le 16 mars et destinée à la formation de ses personnels. Nous sommes effectivement en chemin. Les étapes sont parcourues les unes après les autres. Et je vous en donne l'assurance formelle. Nous atteindrons notre but, tous ensemble.
Novembre 1958, Silvanus Olympio, qui a opéré un rapprochement stratégique avec Paris, notamment avec le général de Gaulle, s'apprête à se rendre aux Nations Unies pour demander la levée de tutelle de la France sur le Togo. Dernière étape avant l'indépendance, tant attendue. Suite de notre série consacrée aujourd'hui dans Archives d'Afrique à Silvanus Olympio, dans une dizaine de minutes, juste après le journal, nous vivrons les grands moments de cette indépendance qui s'annonce et le destin tragique qui attend le père de l'indépendance du Togo. Vous écouterez également les acteurs de cette période. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.